RFI Radio France Internationale, il est 6h à Paris, 8h à Damas.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Andréane Mélard, bonjour à tous.
Dans ce journal, de nouvelles frappes israéliennes cette nuit en Syrie.
Dans les provinces de Latakia et de Tartous, Israël qui frappe les infrastructures militaires syriennes. Frappe préventive dénoncée par des experts de l'ONU. Alors que l'armée de l'État hébreu a également pris position sur le plateau du Golan dans la zone démilitarisée. Un reportage de notre envoyé spécial dans la province syrienne de Kouneitra. Le premier ministre de transition, toujours en Syrie, qui tente lui de rassuré, il protégera les minorités ethniques et religieuses. Mohamed Al-Bashir l'a dit dans une interview hier au Corriere de la Sera. À la une, également la nomination d'un Premier ministre en France qui se fait attendre. Il sera annoncé normalement d'ici ce soir. La Cour d'appel de Paris qui confirme le non-lieu général rendu l'an dernier dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française à Bicécéro, au Rwanda lors du génocide des Tutsis. Et puis la Banque Centrale Européenne qui pourrait baisser à nouveau ses taux cet après-midi. De quoi soulager les professionnels de l'immobilier en France.
L'armée israélienne a de nouveau frappé cette nuit des sites militaires de l'armée syrienne.
Ça s'est passé dans les provinces de Latakia et Tartous sur la côte méditerranéenne. Depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël mène des centaines de bombardements officiellement pour empêcher que des sites militaires stratégiques ne tombent aux mains de terroristes. L'armée a pris position également dans la zone tampon du plateau du Golan. Les forces israéliennes y mènent des opérations dans la zone démilitarisée, dans des villages syriens. Reportage de notre envoyé spécial près de cette zone tampon, Mohamed Erami.
Israël a profité du retrait des forces armées syriennes de l'ancien régime et du vide sécuritaire dans le pays pour pousser ses forces et ses véhicules militaires vers les frontières sud de la Syrie jusqu'à ce qu'ils atteignent le centre du gouvernorat de Qneitra, explique Ibrahim, un habitant du quartier.
Les zones du bassin de Yarmouk et ses villages voisins ont été pénétrées par les forces israéliennes et au cours des derniers jours, elles sont tombées presque sous son contrôle. Nous et nos voisins levons des drapeaux blancs au-dessus de nos maisons pour confirmer que nous sommes paisibles et qu'on ne veut pas de problème.
En quelques jours, l'armée israélienne a pris le contrôle du sommet du mont Hermon et d'un certain nombre de villages et de villes qui l'entourent dans la zone démilitarisée, jusqu'à 18 km de profondeur en territoire syrien. Et il a demandé aux propriétaires du sud de la Syrie d'évacuer leurs maisons, explique Saad Al-Ahmad, un habitant.
Je suis dans le village d'Al-Hamidiya, à Qneitra, et l'armée israélienne nous a averti que nous devions évacuer nos maisons et vider la zone. Mais nous avons décidé de rester et nous n'avons pas répondu. L'armée israélienne est entrée et a mené des opérations de ratissage dans le village après la chute de Bachar el-Assad pour rechercher des armes, mais elle ne les a pas trouvées. Pourtant, elle continue de sortir et de rentrer à Qneitra.
La zone démilitarisée est soumise à l'accord de désengagement de 1974 entre la Syrie et Israël, qui fait des incursions dans cette zone une violation de cet accord, mais Israël justifie ses mouvements par des nécessités de sécurité. Mohamed Erami, Daraa, RFI.
Des opérations israéliennes sans fondement au regard du droit international, c'est ce qu'ont rappelé hier des experts de l'ONU affirmant que le désarmement préventif ouvrait, je cite, la porte au chaos mondial.
Le Premier ministre chargé de la transition en Syrie a lui de nouveau tenté de rassurer hier.
Rassurer les Syriens mais aussi la communauté internationale alors que des pays occidentaux s'inquiètent de la façon dont le nouveau pouvoir dominé par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham va traiter les nombreuses minorités syriennes. Mohamed Al-Bashir promet la garantie des droits à tous les Syriens et pour toutes les confessions. C'était hier dans les colonnes du Corriere della Sera.
Et hier, le Qatar a annoncé qu'il allait rouvrir prochainement son ambassade à Damas.
L'Émirat avait rompu ses relations avec la Syrie en 2011, au tout début de la guerre civile. Les pays du Golfe qui veulent peser sur les orientations des nouvelles autorités syriennes issues du groupe Hayat Tahrir al-Sham. Écoutez, Aziz Al-Ghashian, il est directeur de recherche à l'Observer Research Foundation Moyen-Orient, un groupe de réflexion basé à Dubaï.
Il y a deux choses. Il y a l'argent, mais il y a aussi la légitimité internationale. Et c'est là que je pense que les pays du Golfe et les États arabes peuvent avoir une influence sur eux. Ils savent que le HTS est farouchement anti-Iran. Il n'y a donc aucune crainte qu'ils demandent le soutien de l'Iran. Mais s'ils n'interviennent pas du tout, ils prennent le risque de le repousser vers la Turquie. Et je pense qu'ils essaieront de dire, non seulement nous avons les moyens financiers que nous pourrions fournir, mais nous pouvons aussi commencer à travailler discrètement pour vous légitimer au sein de la communauté internationale.
Le chercheur Aziz Al-Ghashian, joint par Guilhem Deltey. Hier, le Kremlin a dit être en contact avec les nouvelles autorités syriennes, notamment concernant l'avenir des deux bases militaires russes dans le pays après la chute de son allié Bachar al-Assad. Autre pays qui est déployé en Syrie, les États-Unis. Plusieurs centaines de soldats américains sont toujours actuellement en Syrie, mais aussi en Irak, voisin, dans le cadre de la coalition internationale anti-djihadiste créé pour combattre le groupe État islamique. La présence américaine qui est notamment basée à Al-Tanf dans l'Est syrien, Franck Alexandre.
Al-Tanf, c'est une base perdue dans l'immensité du désert syrien, mais sa position est stratégique. Elle est située à quelques encablures de la frontière irakienne et à quelques kilomètres de la frontière jordanienne. C'est un avant-poste idéalement positionné le long de la route reliant Bagdad à Damas, principal axe est-ouest de toute la région. Depuis 2016, la garnison américaine d'Al-Tanf sert à la fois de socle pour lancer des opérations contre le groupe État islamique et de camp de formation pour les factions de l'opposition syrienne combattant le groupe djihadiste. La base facilite également les attaques aériennes israéliennes contre des cibles situées à l'extrême nord de la Syrie, des attaques qui, en raison d'une trop longue distance, ne peuvent être menées depuis le plateau du Golan. Al-Tanf a donc toujours été un caillou dans la chaussure de Damas, une emprise inestimable pour toute opération spéciale.
Franck Alexandre, spécialiste défense sur RFI. Il y a actuellement une chance pour un nouvel accord pour la libération des otages à Gaza. Voilà les déclarations hier du ministre de la Défense israélien, Israël Katz, qui échangeait avec son homologue américain Lloyd Austin. Voilà un an que les États-Unis, mais aussi l'Égypte et le Qatar tentent de négocier cet accord de cessez-le-feu et de libération d'otages entre Israël et le Hamas. Hier, l'Assemblée générale de l'ONU a réclamé à une très large majorité un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la bande de Gaza, appel symbolique qui a été rejeté par Israël et par les États-Unis.
En France, Emmanuel Macron fait durer le suspense.
Le successeur de Michel Barnier devrait être dévoilé aujourd'hui, en fin de journée, après le retour du président de la République de son déplacement en Pologne. Dans un peu plus d'une heure maintenant, l'invité d'Arnaud Pontus sera Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. On reste en France où, après plusieurs procédures successives, la Cour d'appel de Paris a donc confirmé hier le non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française à Bicécéro, au Rwanda. Trois associations, Survie, Ibuka et la FIDH, ainsi que des rescapés du génocide contre les Tutsis, accusent l'opération turquoise et la France de complicité de génocide. Selon eux, Paris a sciemment abandonné des civils Tutsis aux mains des tueurs Hutus en juin 1994. Récit d'audience, Lisa Fabian.
L'enquête avait été rouverte en 2021 après un premier non-lieu suite à la publication du rapport de la commission présidée par l'historien Vincent Duclerc. Ce document mentionnait l'échec profond de la France lors des massacres de Bicécéro. Maître Pierre-Olivier Lambert est l'avocat de plusieurs hauts gradés français désormais hors de cause.
Les juridictions ont pris en compte justement les conclusions de ce rapport Duclerc et ont confirmé qu'il n'y avait aucune charge qui pouvait peser contre les militaires français. On peut être fier de ce que nos militaires ont accompli au Rwanda en 1994. Absolument aucune charge ne pèse sur eux dorénavant.
Les parties civiles faisaient aussi appel contre le refus des juges de procéder à certains actes d'enquête qui auraient permis d'en savoir plus sur la chaîne de commandement française en plein génocide contre les Tutsis au Rwanda. Maître Olivier Fox, avocat de l'association Survie.
Les données réunies par cette commission d'historiens tendent à dire que les décisions ont été prises à Paris. On sait que Paris, c'est-à-dire l'état-major particulier du président de la République, l'état-major des armées, est informé en temps réel, dès le 27 juin, de ce qui se passe. Mais on n'a pas d'ordre descendant. Et quels ont été les ordres donnés? On n'a pas ces éléments au dossier.
L'association Survie a indiqué qu'elle poursuivait son combat judiciaire pour faire reconnaître les fautes de la France au Rwanda.
Lisa Fabian du service Afrique d'RFI.
La Banque Centrale Européenne doit annoncer ce jeudi si elle maintient ou non ses taux directeurs au niveau actuel.
La BCE qui pourrait bien les baisser cet après-midi, c'est ce qu'estiment en tout cas de nombreux observateurs. Ce serait la quatrième fois cette année, de quoi soulager le monde de l'immobilier en France alors que le marché était largement paralysé depuis fin 2022 environ. Le secteur respire un peu mieux depuis quelques mois. Reportage de Justine Fontaine en région parisienne.
On pousse la porte d'un courtier de la banlieue est de la capitale, intermédiaire entre les banques et les particuliers pour aider les acheteurs à négocier le meilleur taux pour leur emprunt immobilier. Bonjour. Olivier Torjman a retrouvé un peu le sourire après les 3 baisses de taux directeurs décidées par la BCE depuis juin.
Dès qu'il y a une annonce, on a un effet dès le lendemain. Les gens tout de suite se remettent à chercher et reviennent vers nous pour pouvoir les aider à se financer.
Car la baisse des taux est prise en compte par les banques.
On est passé d'un taux qui était à peine en dessous de 4. Aujourd'hui, on peut descendre aux alentours de 3,20-3,25%. Pour un emprunt sur 25 ans, c'est juste énorme. Vous avez 25% de coûts en moins.
Et cela change tout pour certains dossiers comme celui que le courtier a devant les yeux.
Typiquement, pour ce client-là, il y a 6 mois, les gens n'auraient pas pu acheter.
Les banques prêtent moins cher et un peu plus facilement. Mais à Aubervilliers, en banlieue nord de Paris, les agents immobiliers ne sont pas encore sortis de la crise, témoigne Abdelmalik Djermoun.
Nous avons beaucoup d'agences qui ferment. On ne voit pas encore le bout du tunnel. Nous sommes encore sur une période très compliquée.
Plus de 900 agences immobilières ont ainsi mis la clé sous la porte depuis le début de l'année. Le nombre de fermetures a plus que doublé entre 2023 et 2024.
Le reportage de Justine Fontaine. RFI 6h11 à Paris, c'est notre choix musical aujourd'hui. Setenta, le groupe parisien emblématique du latin funk en France.
Setenta qui revient avec un nouvel album Apollo Solar Drive que nous présente ce matin Hugo Casalino.
Le Latin Funk, comme son nom l'indique, est une version latine de la musique funk. Très urbaine, c'est une musique jouée dans les années 60-70, surtout dans le Bronx à New York. On appelait ça le Latin Soul ou le Boogaloo. Puis la soul s'est transformée en musique funk et ainsi va naître le Latin Funk, dont se revendiquent les Parisiens du groupe Setenta. Apollo Solar Drive, c'est leur nouvel album, un 9 titres très solaire comme la pochette du disque. Un album plus instrumental que leur précédent, il doit sortir le 17 janvier. En attendant, leur premier single, Libérame, est en playlist RFI. Ça parle de libération, de délivrance et vous allez l'entendre, Setenta, c'est aussi une histoire de son. Libérame.
C'était Hugo Casalino sur le nouvel album Apollo Solar Drive du groupe Setenta. Et puis un mot de football, la Ligue des Champions en Europe, Manchester City a été battu 2-0 hier par la Juventus Turin. Troisième match sans victoire pour Pep Guardiola et ses hommes. Arsenal a dominé Monaco 3-0, pointe désormais sur le podium, juste derrière Barcelone qui a dominé Dortmund 3-2. Tous les résultats, ce sera dans une demi-heure dans le journal des sports d'Antoine Grenier. J'en perds ma voix.
Il est temps de s'arrêter du coup. Merci Jeanne Bartoli. 6h13 à Paris. RFI Matin, bienvenue, ravie de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 9h, 3h d'information. Avec l'ensemble de la rédaction, on va s'intéresser ce matin à la Syrie, alors que les rebelles menés par les islamistes du HTS prennent les rênes, tentent de rassurer sur leurs intentions. Nos envoyés spéciaux nous emmènent aujourd'hui à la télévision d'État, ex-organe de propagande du régime déchu.
Avant, on n'avait pas le droit de diffuser la moindre information sans recevoir l'accord préalable de la présidence de Bachar al-Assad. Et tout passait par mon bureau. S'il y avait quelque chose de vraiment urgent, c'était directement diffusé du palais présidentiel.
Un reportage de Muriel Paradon et Boris Vichit a écouté à 8h. De même que notre dossier aujourd'hui consacré à Israël et l'intérêt de l'État hébreu pour le Golan. Sami Boukhelifa nous en parlera tout à l'heure. La Syrie et les bouleversements en cours. Quelles conséquences sur les opérations de la Russie sur le continent? On en parle avec notre invité Afrique ce matin, le général Jérôme Pélistran. Dit rendez-vous dans une demi-heure. Reportage aussi ce matin en Géorgie après de nombreux jours de protestations lourdement réprimées par les autorités.
C'est un moment extraordinaire, inédit ici. C'est totalement spontané, il n'y a pas d'organisation centralisée. Certains apportent de la nourriture, d'autres font du feu pour réchauffer les manifestants. C'est vraiment de l'auto-organisation, c'est impressionnant.
Reportage à écouter à 8h15. Également au programme ce matin, la République démocratique du Congo et ce discours prononcé hier par le président Félix Tshisekedi face au Parlement réuni en congrès. Et puis cette journée d'attente en France. Normalement, ce soir, le pays devrait connaître son nouveau Premier ministre. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, est notre invitée ce matin. Rendez-vous à 7h20, RFI Matin. Également la presse, le sport. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et on parle tout d'abord de cet accord qui s'apprête à être signé entre la Birmanie et la Russie. Accord sur l'envoi de travailleurs migrants birmans en Russie. Et cela, dès l'an prochain, l'idée, eh bien, c'est de faire face au manque criant de main-d'œuvre dans l'agriculture ou l'industrie manufacturière russe. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour.
Du service international des RFI. Alors, Yelena, avec plusieurs centaines de milliers de soldats déployés sur le front ukrainien, la Russie est bien sûr confrontée à une grave pénurie de main-d'œuvre.
Oui, on estime le manque de travailleurs à près de 5 millions. Tous les secteurs sont touchés, en particulier l'agriculture, l'élevage, la construction, le secteur industriel. Cette pénurie s'explique, Andréane, aussi par le durcissement de l'octroi de visa aux travailleurs en provenance d'Asie centrale, mesure adoptée, souvenez-vous, après une attaque terroriste en mars dernier dans une salle de concert dans la périphérie de Moscou. L'attentat avait été commis par un commando tadjik. Selon les médias birmans en exil, ce premier contingent de travailleurs devra apprendre le russe et sur les 600 agences de recrutement, seuls deux proches de la junte auraient obtenu une licence pour travailler avec la Russie.
C'est un accord gagnant-gagnant qui profite aussi au régime militaire birman.
En effet, Andréane, depuis le coup d'État en 2021, le pays est ravagé par la guerre civile et en raison des sanctions internationales, la junte est à court de devises. C'est justement grâce à ces travailleurs migrants, il y en aurait jusqu'à 5 millions rien qu'en Thaïlande, que les généraux renflouent en partie leur caisse. Comment ? En obligeant leurs expatriés à transférer au moins 25% de leurs revenus via le système bancaire birman. Et en cas de refus, eh bien, leurs passeports ne sont tout simplement pas renouvelés. Ce qui pousse de nombreux Birmans à entrer dans la clandestinité. Alors ces devises sont ensuite utilisées par la junte pour acheter des armes et du kérosène. Pour le gouvernement birman en exil, cette surfacturation des travailleurs migrants permet à la junte de financer ses crimes de guerre.
Et cet échange de bons procédés n'est qu'une illustration des liens très forts qui unissent la junte militaire et le Kremlin.
Oui, en témoigne l'absence totale de couverture par les médias sous contrôle de la junte de la chute de Bachar al-Assad. Pas un mot sur cet événement qui a pourtant fait la une dans le monde entier. Ce silence, Andréane, illustre l'embarras des militaires pour leur allié russe, proche du régime syrien déchu, et qui ont préféré consacrer leur couverture à d'autres sujets, comme la reconnaissance par l'UNESCO de la fête du printemps chinois. Alors oui, la Russie soutient sans réserve le régime militaire birman. Elle est son principal fournisseur d'armes devant la Chine. Depuis le putsch, les Russes se sont clairement rangés du côté de la junte et du général Min Aung Hlaing en fournissant au régime plusieurs centaines de millions d'euros de matériel militaire comme des hélicoptères de combat, des chasseurs, des blindés, de l'artillerie. Des techniciens militaires russes assistent également l'armée de l'air birmane à entretenir ces avions de chasse, ces mêmes avions qui bombardent les civils. Après l'effondrement du régime Assad en Syrie, de nombreux Birmans caressent l'espoir d'un retournement de situation, d'un abandon de soutien à la junte par la Russie. Un vœu pieux, en tout cas pour l'instant. Et même si la Russie décidait de lâcher la dictature militaire, la Chine restera, elle, un allié inconditionnel, tant ses intérêts stratégiques en Birmanie sont importants.
Merci Yelena Tomic. C'était notre rendez-vous la une en Asie ce matin. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'attente en France. L'annonce du nouveau Premier ministre est attendue pour ce soir, une semaine après la démission du gouvernement Barnier, suite à la motion de censure votée à l'Assemblée nationale. On en parle ce matin, notamment avec notre invité à 7h20. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Yael Braun-Pivet est votre invité. La présidente de l'Assemblée nationale française répondra à vos questions de Rabat, où elle se trouve.
Oui, au Maroc. Elle est actuellement en mission de diplomatie parlementaire, mais elle suit évidemment de près ce qui se passe en France dès le lendemain de la motion de censure. Elle avait demandé au président de la République de nommer rapidement un nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron ne l'a visiblement pas vraiment écouté. Il prend son temps, comme en son habitude. Que pense-t-elle de la méthode présidentielle? Quel profil lui paraît le bon pour Matignon? Et pourquoi faire? Avec Yael Braun-Pivet, on évoquera aussi la nouvelle Syrie après la chute de Bachar el-Assad, le groupe HTS et le sort des demandeurs d'asile syriens. L'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, entre autres, ont gelé les procédures et l'examen de ces demandes. La France doit-elle faire de même du côté du ministère de l'Intérieur? On dit y travailler. On va poser la question à Yael Braun-Pivet tout à l'heure.
À 6h20 en universel. À tout à l'heure, Arnaud.
RFI Matin.
La France où la colère gronde dans beaucoup de secteurs, conséquence de finances publiques dans le rouge vif et d'une instabilité politique qui semble sans fin. Colère des agriculteurs, colère du rail, la SNCF est en grève d'ailleurs aujourd'hui. Colère aussi face à tous les plans sociaux annoncés ces dernières semaines, Michelin, Auchan, ArcelorMittal. Mais les petites et moyennes entreprises ne sont pas épargnées, comme l'a rappelé fin novembre François Asselin, le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, parlant du plus grand plan social en cours dans les petites entreprises. Illustration à Marseille avec ce reportage de Nathanaël Vitran.
Bonjour.
Et bonjour.
Ça sent même le café. C'est la salle de contrôle du chantier.
Pascal Clergue nous reçoit sur l'un des chantiers qu'elle pilote, celui du futur collège jésuite Loyola, situé dans un quartier en pleine mutation de Marseille.
Quand on est debout sur un chantier, ça veut dire qu'on est debout avec son entreprise, et donc ça veut dire qu'on n'est pas mort.
Il s'en est fallu de peu. Son entreprise d'ingénierie dans le BTP a été placée en redressement judiciaire en mars 2023. Elle est alors en cessation de paiement.
Cessation de paiement, c'est quand vous arrivez au début du mois et que vous pouvez plus payer les salaires de vos employés. Moi, j'en avais 11, donc c'était très compliqué.
Pour sauver l'entreprise, ébranlée par les crises à répétition, il a fallu licencier tout le monde.
Les raisons sont multiples. Bien évidemment, on a parlé du Covid. Pendant 2 mois, les chantiers se sont arrêtés. Ma trésorerie est devenue catastrophique. Après le Covid, nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup de travail en 2021. Donc, on a embauché. Seulement, on était trop juste. Et qu'en 2022, l'immobilier a commencé à chuter, les taux d'intérêt, que les permis ne sortaient pas, etc., etc., on a plongé, on n'avait pas assez de ressources pour pouvoir maintenir ses salariés dans l'entreprise.
Anne Jega est elle aussi chef d'entreprise. Elle est également juge au tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Le tribunal de commerce, c'est un tribunal pour les patrons, géré par les patrons bénévolement. On juge, mais on conseille énormément.
Elle est donc aux premières loges de la crise en cours.
Ça touche moins les TPE-PME que des entreprises de plus grosse importance. Donc ça s'appelle encore des PME, mais c'est des grosses PME. On a des plans sociaux qui sont monumentaux, dont on n'avait pas l'habitude. Des entreprises qui faisaient vivre beaucoup de gens et qui s'effondrent.
Désormais seul à bord et lourdement endetté, Pascal Clergue regarde avec inquiétude les remous actuels. Mais elle veut croire qu'elle est aujourd'hui mieux préparée pour affronter la tempête.
Cette traversée pendant 2 ans, c'est ce qui m'a le plus appris en tant que chef d'entreprise. Alors je ne dis pas qu'il faut que tous les chefs d'entreprise déposent le bilan et remontent une boîte, mais je crois qu'il y a Steve Jobs qui disait « Pour être un excellent chef d'entreprise, il faut couler 3 fois son entreprise. » Donc
plus que 2.
Plus que 2.
Nathanaël Vitran, Marseille, RFI.
À Marseille, il est 6h23. Lors de notre question d'environnement, comment le bois mort est-il source de vie? Bonjour Lucille Gimbert.
Bonjour.
Avec nous pour tenter de répondre à cette question ce matin, Lucille. Alors que la COP16 contre la désertification se poursuit à Riyad, les pays ont jusqu'à demain pour négocier un accord final. On s'arrête ce matin sur le rôle essentiel que jouent les arbres et arbustes en fin de vie pour la bonne santé des sols et le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers.
Oui, on a tendance à retirer le bois mort alors qu'en réalité il ne faudrait pas. Du bois mort, il y en a en forêt, par exemple, après les tempêtes, les incendies ou lorsque l'humain a décidé d'éclaircir un peu la forêt. Là où il y en a vraiment, vraiment beaucoup, c'est dans les forêts dites en libre évolution. Là, le cycle de la nature s'y fait spontanément, sans intervention humaine. Il y a donc des arbres de tous les âges, certains très, très vieux, et on ne retire pas le bois mort.
C'est le cas dans la réserve de la Massane, une forêt très ancienne dans le sud de la France que vous avez pu découvrir.
Oui, le résultat est spectaculaire. À la Massane, près de 50% de la biodiversité est liée à la présence de ces très vieux arbres et de ce bois mort. Imaginons, on est au milieu de grands hêtres verts qui frémissent avec le vent. J'espère qu'on les entend. Et au sol, il y a énormément de branches, de troncs, de restes d'arbres. Et avec nous, il y a Joseph Garrigue, l'ancien conservateur de la réserve.
Mais c'est un foisonnement de vie, en fait. Il y a d'un pack au sol. Donc vous allez avoir des communautés complètement différentes dans les arbres qui se décomposent sur pied. Et puis ceux qui sont au sol, où il y a plus d'humidité. Il y a énormément d'espèces qui vont profiter de cette matière que sont les arbres pour reminéraliser la matière, en fait, et la redonner à la forêt et permettre le cycle complet.
Oui, les larves d'insectes, par exemple, se nourrissent du bois mort. Elles y vivent donc plusieurs années et cela attire les oiseaux, les chauves-souris. Les souches et morceaux d'arbres tombés servent d'abri aux amphibiens. Les arbres morts restés debout, eux, servent de support aux mousses et aux champignons. Il y a notamment une infinité de champignons invisibles sous terre et dans le corps des arbres qui servent au bon fonctionnement de la forêt.
Et en quoi le bois mort est-il bénéfique pour les sols?
Eh bien, parce que c'est un fertilisant naturel. Sa décomposition par la microfaune du sol et par les bactéries, puis par les bactéries, entraîne la libération des éléments minéraux contenus dans le bois. Et cela, avec la chute des feuilles, participe à la qualité chimique des sols forestiers.
Et le bois mort ne risque pas d'accélérer les incendies?
En réalité, non, parce qu'il se gorge d'eau la plupart du temps et conserve donc l'humidité des sols. Au contraire, conserver ces réservoirs de biodiversité, c'est une assurance vie pour la forêt. D'abord, dans les arbres morts, il y a plus de prédateurs capables de manger les parasites qui pourraient attaquer la forêt. Deuxièmement, un arbre qui a plusieurs centaines d'années a vécu des périodes de sécheresse, de pluie abondante, des maladies et il a réussi à chaque fois à s'adapter. Ses branches sont donc pleines d'une grande diversité génétique qui pourra aider ses descendants à faire face au changement climatique.
Merci Lucille Gimbert pour la question d'environnement et pour cette petite balade en forêt matinale. Ça réveille, ça fait plaisir. Allez, tout de suite, un peu de musique jusqu'au prochain journal. C'est sur notre playlist RFI. Ce mois-ci, le titre d'Arès Salam par Harmonies.
Yo, yo. Bombo. All right. Nataka mdi. Usita kini pendi mdi. Masela nataka mdi. Ilo jiji wana kuishi ujipange. Dada ukitaka gari ni lazima urange. Kario masai wana namba za mange. Wengine utasema ni akiri za bange. Ama nende mbea, turia tanipokea. Ila daa swezi sogea, kazi kubeti na umbea. Arusha, nora kama tajirusha. Bombo kwa, kena move to the mosh. Vipi mimoshi, na iwaza sana Dodoma. Kila moyo bado nagoma. Aunende Kigoma, ama nipeleke nalipo Roma. Alright, koja kwanza, wacha nende mwanza. Kale sato kwanza ila, mtwara kwanza. Eti uko bongo, vitu vidogo vidogo, wanaume wanasusa. Kila mwenye kiki kidogo anatembea na bausa. Shit. Nataka mji. Usitaki nipeni mji. Masela nataka mji. Wanazunguka kwa waganga wakikosa. Wanarudi kwa mamposa. Tajiri anaga makosa. Machinga nafasi kakosa. Joto la da lazima uwe na AC. Muda mwingine umeme unakata kumshinda race. Kama nasogea sogea ni Morogoro au Songea. Wanaume wana kukungea na pakulala wanagongea. Asikutishe maisha yao ya kwenye TV. Buti jizi na t-shirt fake Louis V. Wabongo wakupimishe hata uwe na CV. Ukiacha Iringa na Njombe da pia kuna HIV. Vitu vidogo vidogo wanaume wanasusa. Kila mwenye kiki kidogo anatembea na bausa. Shit. Nataka mji. Usitaki nipeni mji. Masela nataka mji.
Le chanteur, compositeur et homme d'affaires tanzanien Harmonize sur RFI ce matin. Et le titre d'Arès Salam, c'est sur notre playlist ce mois-ci avec tout un tas d'autres titres et d'autres artistes. Tout est à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur notre site RFI.fr. We'll be right back.
RFI Matin.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
réunion du partenariat pour la couverture santé universelle de l'OMS à Lyon.
Demain,
question de femmes, les accidents de la vie courante.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Recherche d'emploi. Si vous êtes jeune diplômé, c'est le moment de poser toutes vos questions à nos spécialistes. Pour valoriser vos diplômes, vos expériences, parlez aussi de vos compétences et tout ça sur un CV parfait.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.